On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter.
Alors moi je m'appelle Mélissa, j'ai 21 ans. J'ai commencé la cuisine il y a 6 ans en faisant un bac professionnel à l'école Ferrandi à Paris. Et voilà, et maintenant, actuellement je suis en résidence à la Maison Odette dans les Cévennes avec mon amie Apolline. On s'est rencontrés dans un restaurant à Paris il y a un an et demi, deux ans maintenant. On a bossé ensemble là-bas et depuis on avait envie de retravailler toutes les deux. Donc on s'est retrouvés ici pour l'occasion. Et voilà.
Et donc Apolline, tu veux te présenter un petit peu ?
Eh bien oui, moi c'est Apolline du coup. Pour le coup, moi j'ai pas du tout un parcours de cuisinier normal entre guillemets. Je sors des Beaux-Arts de Mulhouse en Alsace. J'ai commencé la cuisine, enfin j'ai toujours fait un peu de restauration, du service, voilà, côtoyer des cuisines qui me plaisaient bien, avec des chefs qui me plaisaient bien. Mais j'ai commencé la cuisine avec Mélissa du coup il y a deux ans au restaurant Mash. Par la suite, j'ai bossé dans un resto à la ferme en Bretagne. Je suis actuellement en train de monter ma conserverie avec les invendus, invendables de ferme locale. Voilà. Et donc nous sommes actuellement à la Maison Odette pour une résidence d'une semaine.
Donc une résidence à Aulas. Comment vous avez trouvé les Cévennes ? Comment vous avez été atterri ici ? Et puis aussi comment vous vous sentez ici du coup dans les Cévennes ? C'est particulier, peut-être non, ça change un peu du contexte actuel, du contexte habituel sur votre...
Si ça pouvait être tous les jours comme ça, ça serait génial. Là on se lève, on va voir des cascades, on prend des coups de soleil, puis on revient ici, on cuisine, on rencontre des gens super chouettes. Et du coup comment on a atterri ici, c'est en fait Laurence qui nous a contactés, donc Laurence qui dirige la Maison Odette. Moi je l'ai rencontrée lors d'un traiteur à Paris que je faisais pour une marque de chaussures et elle a adoré notre contact et du coup je lui ai proposé de rencontrer Mélissa, elle a adoré Mélissa et de fil en aiguille on a atterri ici et voilà.
Donc vous allez nous parler d'une recette un peu personnelle qui vous tient à cœur, qui vous rappelle des souvenirs. De quoi est-ce que vous voulez nous parler ?
Alors on va vous parler d'une recette de dessert qu'on a créée dans cette résidence justement, qu'on a fait pendant la semaine et qui a été un peu notre recette favorite à toutes les deux. C'est un dessert de cuisinier. Donc il y a pas mal de... Enfin, on a fait des petits mélanges un peu sucré-salé. Donc c'est une poire qu'on a snackée et qu'on a déglacée au vinaigre et au miel, avec une chantilly au lassis. Lassis que nous a fait découvrir le patron d'ici, qui préparait du lassis, qui nous faisait des petits lassis tous les jours, qui étaient délicieux. Donc on l'a incorporé dans une chantilly, avec du curry noir, un peu d'huile d'olive. Et un crumble.
La question était si ça nous rappelait un souvenir, quelque chose de particulier. Moi, je pense que c'est un souvenir qui est en train de se créer parce qu'en fait, on a toutes les deux vécu à Paris, donc on a toutes les deux bu du lassis maintes et maintes fois dans des restaurants, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des choses qui sont assez faciles, assez abordables. Par contre, ici, on a été accueillis avec un lassis et puis tout le monde est accueilli ici par un lassis, j'ai l'impression, depuis qu'on est là. Donc, on a voulu rendre un peu hommage, on a goûté, en plus ce dessert c'est un peu une erreur en vrai, j'aime bien raconter la vérité. La vérité c'est qu'avec le lassis du patron on a voulu faire une glace, que la glace n'a pas prise, enfin le temps du dressage etc, bref, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, du coup on l'a incorporé à une chantilly, et puis ensuite en goûtant on s'est dit ok c'est trop chouette, ça manque de quelque chose, et le lien est venu avec... le curry noir et en fait la poire, le curry noir, le lassis, le croustillant du crumble, ça faisait un sacré mélange sucré salé breton indien cévenol. Et voilà.
Oui, c'est intéressant ce mix. Il y a un autre truc, on va revenir sur la recette juste après. Il y a un autre truc qui était assez amusant dans ce que tu disais et qui est intéressant. Et tu parlais de l'erreur de départ, en fait. Et est-ce qu'en cuisine, vous avez d'autres exemples comme ça de moments où l'erreur peut servir justement à découvrir quelque chose ?
En fait, notre semaine, elle a été un peu dictée comme ça. Elle n'a pas été dictée par des erreurs, mais plutôt par... on a fait avec ce qu'il y avait. Enfin, vraiment, on est allé au marché, on a pris ce qu'il y avait. On n'a pas écrit de recettes. On a ouvert le frigo et on s'est dit, oh, ça irait trop bien avec ça. Ça irait trop bien avec ça. Mais viens, ça, on cuisine comme ça et puis on change un peu. Et puis non. En fait, ça a été que de rebondissements toute la semaine pour trouver les assiettes parfaites avec le goût parfait de ce qu'on imagine. On a la chance d'avoir des goûts communs, autant esthétiques que gustatifs. Donc voilà, on a pu avancer là-dessus.
Il faut savoir que c'est aussi notre manière de cuisiner à la maison et la manière qu'on a de cuisiner pour nous, de faire un peu avec ce qu'on a et d'essayer de twister un peu avec les choses du quotidien, faire des choses sympas, quoi. Et pour revenir aussi sur la recette, je voulais dire le curry noir, on l'a ajouté, pareil, ça c'était pas prévu, on s'est dit que ce serait sympa. Moi, je sais pas si c'est le cas pour Apolline, mais c'est une épice que j'ai découverte dans le resto dans lequel on s'est rencontrés. Notre chef était assez friand de cette épice. Moi, je connaissais pas ça avant. Donc, on l'a découvert ensemble. Et il se trouve que, par hasard, en arrivant ici, on a vu qu'il y en avait. C'est une épice qu'on trouve quand même pas partout, qui est pas utilisée par tout le monde. Et du coup, voilà, c'était cool aussi de pouvoir utiliser cette épice dans ce dessert, quoi.
Alors, cette recette, comment on l'a fait ?
Alors, du coup, tout a commencé par le lassi de Dramandra, qui est du coup le directeur de la maison Odette. Il nous fait du lassi tout le temps. Donc nous, on a eu envie de rendre un peu hommage à sa boisson. Donc le lassi, c'est du lait fermenté, ça peut être agrémenté de yaourt, c'est de l'arôme de rose et de la cardamome. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une chantilly. Donc pour monter une chantilly, il vous faut de la crème 35, très très froide, frigo bien bien froid. Le mieux, c'est que votre bol soit aussi très froid et que vous la montiez au fouet dans le bol et que vous incorporiez le sucre au fur et à mesure. Il n'y a pas de pesée exacte parce que nous, on fait tout à l'œil, mais une fois que votre fouet est bien recouvert de votre chantilly bien ferme, c'est OK. Et ensuite, avec une maryse, donc une spatule, vous allez pouvoir incorporer délicatement le lassi afin que votre chantilly se tienne toujours et que le goût vous convienne.
Ensuite, on a fait un crumble. Donc ça, c'est crumble, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. C'est de la farine, de la cassonade et du beurre. Le beurre, on le laisse tempérer en dehors du frigo un petit moment avant pour qu'il soit... qui puisse être travaillé facilement, qui soit assez mou. Donc là, pour une recette, c'est à peu près les mêmes pesées, beurre, farine et sucre. On met un petit peu plus de farine que de sucre et de beurre. On va mettre les trois ingrédients ensemble et on va mélanger, on va venir écraser le beurre dans ses mains avec la farine et le sucre jusqu'à ce que ça forme une pâte et que le beurre il soit totalement incorporé à la farine et au sucre. Quand ça commence à faire une pâte, quand on la prend dans nos poings et que ça commence à bien se tenir et à faire une bonne boule, là, l'appareil à crumble, il est prêt. Donc après, il n'y a plus qu'à l'émietter et à en mettre sur une grille avec du papier sulfurisé au four à 180-200 degrés. Et voilà, on l'émiette sur la grille du four et on laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré et que ça soit croustillant. Voilà.
Ensuite, on a récupéré des poires au marché du Vigan. On les a coupées en deux, on les a vidées, on les a épluchées. On les a fait partir à la poêle avec de l'huile d'olive. Une fois que la coloration était nous convenait, on a déglacé. Donc déglacer, c'est pour décrocher le sucre qui s'accroche à la poêle du fruit, ou de la viande, mais en l'occurrence du fruit. On a déglacé du coup avec du vinaigre et du miel. Et on a servi donc la poire à peine cuite. Alors, il y avait encore un peu de croquant. Encore une fois, c'est à votre goût, votre guise. Donc on a servi la poire, le crumble, la chantilly au lassi, un filet d'huile d'olive et un tout petit peu de poudre de curry noir.
La chantilly au lassi, comment est-ce qu'on incorpore le lassi ? Là, j'ai pas bien suivi l'étape du lassi. On fait du coup, on monte sa chantilly avec de la crème donc à 35%. Ensuite, on incorpore du coup un peu de sucre.
On monte la crème à 35%, au mieux dans un batteur de cuisine avec un fouet. Sinon, avec un fouet électrique manuel. Et si vous avez des gros bras, au fouet au fouet à la main, quoi, à l'ancienne. On monte la crème avec un peu de sucre. Une fois que la crème est bien montée en chantilly, qu'on voit que ça s'est épaissi, que ça a moussé, que ça se tient bien, que ça devient léger, onctueux. Le lassis, c'est un corps liquide, alors on va venir l'incorporer doucement avec une maryse, avec une spatule, jusqu'à ce que le goût vous convienne. L'étape surprise du lassis, c'est que nous, on ne l'a pas fait. C'est le directeur de la maison Odette qui l'a fait. Donc, nous, de ce qu'on connaît du lassis, en tout cas, c'est du lait fermenté, de l'arôme de rose et de la cardamome.
Normalement, on mixe tout ensemble.
On mixe tout ensemble, on le passe dans un chinois et dans un tamis, un chinois, et vous avez votre boisson. Après, j'imagine qu'il y a, ouais, y a les petits secrets.
Bien mixé pour que le lait puisse être un peu moussé, en fait. Après, ça devient très léger, il y a de l'air qui s'incorpore pareil. Et donc, il y a des petites bulles, ça permet des petites bulles d'air. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment onctueux, vraiment léger.
Le yassi, c'est une sorte de yaourt, en fait, mais sauf que c'est pas du yaourt qu'on prend. On va prendre du lait fermenté qu'on peut acheter en magasin. Et on va le mixer du coup avec les ingrédients, donc la cardamone et les épices
en fait vous recommandez. La consistance d'un smoothie, quoi. C'est assez, c'est comme les fruits qu'on mixe avec le lait, c'est une consistance, c'est assez épais, mais c'est quand même liquide, quoi. Don't attempt to fool a fiend. Raise a cane, raise the dopamine. For the pain, calm rivers ever flowing. By the spoonful or by the sack, get the monkey off my back. I'll be jonesing for that crack, a double-double. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? How could I? Something bad for something sweet. Liquid gold, confectionery. What's inside the maple tree? That's the trouble. Take the summer, take the spring. I took the fall, I'll take anything. Make it saccharine, every season will be snowing. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I?
C'est un dessert qui est un mix de plein de cultures différentes. Est-ce que pour vous, ça justement, cette diversité qui vient d'un croisement de plein de choses différentes, c'est un élément essentiel pour vous dans la cuisine, dans votre cuisine en tout cas?
Alors je dirais pas que c'est essentiel. Moi, je dirais plutôt que je travaille avec des produits que j'affectionne. Et voilà, il se trouve que j'aime plein de types de produits différents qui viennent de plein d'endroits du monde. Après, moi, j'essaie quand même vachement de privilégier les produits locaux, les circuits courts, mettre en avant les producteurs. Donc, du coup, ça va être plus souvent des produits français. Après, on a aussi en France des producteurs qui font des produits. Maintenant, on a des poivres super qui sont produits en France, des piments. Enfin, voilà, plein de produits aussi qui, à la base, viennent de l'étranger, mais qu'on peut retrouver en France. Donc, moi, je dirais plutôt que je cuisine quand même avec des produits français. Après, par exemple, le soja, j'adore ça. J'en mets dans plein de recettes. Je dirais plutôt que c'est en fonction de mes goûts perso, quoi, de ce que moi j'affectionne.
Du coup, là, sur l'expérience un peu courte, mais d'une semaine dans les Cévennes en résidence, vous avez eu des bonnes surprises en termes de produits? Il y a eu des choses qui vous ont bien plu dans ce que vous avez vu?
Alors, hier, on a fait une entrée avec de la truite fumée, qui est pêchée par un petit producteur, justement, pas loin d'ici. Et on est allé sur un marché de producteurs au village d'à côté, où il y avait 4 stands. Et on était au Vigan. Et il y avait 4 stands, dont ce stand de pisciculture. avec les truites qu'on voyait encore fraîches, qui avaient été élevées une heure avant, les filets. Et voilà, donc on a acheté de la truite fumée à ce monsieur et on en a fait une entrée qu'on a toutes les deux, dont on était toutes les deux assez contentes. Et voilà, c'est vrai que j'étais assez surprise, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la truite aussi bonne.
En termes de parcours, alors est-ce que du coup on voit que vous avez plein de goûts différents, vous avez plein d'inspirations différentes. D'où ça vous vient ça? Qu'est-ce que c'est que votre parcours? Quel est le lien entre toutes ces influences différentes et votre parcours professionnel, personnel? Qu'est-ce qui vous a influencé?
Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a élevée toute seule et qui pour des raisons multiples et variées, m'a emmenée faire des AMAP. C'est des réseaux de producteurs, en fait, avec des paniers pour quand tu habites en ville ou pas, d'ailleurs, tu récupères des bons produits. Donc, ce n'est pas forcément des produits qu'on connaissait, le rutabaga ou voilà, le radis noir, etc. Donc, on s'était forcé, elle et moi, à cuisiner des choses... qu'on connaissait pas forcément. Aussi, elle m'avait seule, comme je viens de le dire, donc il faut être assez, autonome. Très tôt, j'ai cuisiné. Mon papa, que je voyais de temps en temps, lui cuisine extrêmement bien. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir. Il m'a laissé rentrer dans sa cuisine. Donc, j'ai pu voir toutes ses techniques, tout ce qu'il aimait faire, etc. Et puis, pour financer mes études, la restauration, c'est quand même un bon moyen. Donc, puis moi, j'adore manger. Si je cuisine, c'est parce que j'aime manger, avant tout. Et donc, la restauration, le service, puis le service de restaurant en restaurant, on affine ses goûts, on a envie de travailler avec tel produit, avec tel chef, dans telles conditions. Puis ensuite, je travaille dans un restaurant, on m'a laissé l'occasion d'être en cuisine aussi. Donc je faisais autant de salle que de cuisine. Et ensuite, je me suis retrouvée avec Mélissa donc chez MASH, avec le chef Michael Gamet. Ça, pour le coup, j'ai eu énormément de chance, parce que du coup, sans parcours scolaire en cuisine, il m'a laissé l'opportunité de travailler avec lui. C'est pas toujours donné. Donc voilà, je suis restée un petit bout de temps là-bas. Je me suis formée. Et ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant à la ferme en Bretagne qui s'appelle La Morinet. Et là, pour le coup, on cuisinait exclusivement avec les produits de la ferme. Donc, autant en maraîchage qu'en viande. Et maintenant, on est à la maison Odette. Je vais faire quelques résidences avant la fin 2023 et ensuite j'ouvrirai ma conserverie.
Tu disais que tu avais commencé à cuisiner très tôt. Est-ce que tu te souviens par hasard, du premier plat que tu as cuisiné ou de la première chose que tu as pu cuisiner? Et à quel âge tu as commencé à cuisiner vraiment?
Je pense que les premiers trucs que j'ai cuisinés tout bêtement, c'était des tartes. J'adore, c'est hyper facile à faire, c'est hyper rapide. C'était des tartes. Puis après, au fur et à mesure, je m'amusais avec les légumes d'été que j'adore à faire des tians, des choses comme ça. J'adorais travailler à la tomate. Puis je me disais, il faudrait récupérer les pépins, les mixer pour en faire une vinaigrette avec les pépins. Je commençais à réfléchir à des trucs. J'adorais faire des pâtes aussi, des pâtes fraîches. À l'époque, quand j'ai commencé à cuisiner pour moi, j'aimais beaucoup la cuisine méditerranéenne, donc je m'inspirais de choses comme ça. Je lis exclusivement des livres de cuisine, je regarde exclusivement des documentaires sur la cuisine, un peu monomaniaque.
Depuis quel âge tu fais ça?
Franchement, longtemps, même quand j'étais petite, les dessins animés, mes préférés, c'est les Miyazaki, parce qu'on voit les moments où ils cuisinent à chaque fois dans le château ambulant, je vois très bien le bacon qui frit dans la poêle avec les œufs à côté, c'est des images comme ça qui me marquent. Je sais pas exactement répondre mieux à cette question.
Et toi, Mélissa, du coup, qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'a mené à ce parcours de cuisine?
Moi, j'ai grandi dans une famille quand même où on cuisine beaucoup et où on aime bien manger. J'aime aussi beaucoup manger. C'est de là que aussi vient mon amour pour la cuisine. Et j'ai commencé à cuisiner très petite. C'était principalement des gâteaux parce que je suis super gourmande, j'adore le sucre. Donc je faisais beaucoup de gâteaux au chocolat. Dès 7 ans, j'ai commencé à cuisiner, à faire des gâteaux. Et en fait, je me suis rendu compte, j'étais très. Comment dire? J'avais beaucoup d'énergie quand j'étais petite. J'étais un peu hyperactive. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que quand je faisais de la cuisine, ça me permettait de canaliser mon énergie, ça me permettait de me détendre. Et en fait, j'aimais beaucoup passer de temps derrière les fourneaux. Naturellement, en fait, j'ai de plus en plus cuisiné. Dès l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à prendre des cours de cuisine. En troisième, on a un stage obligatoire d'une semaine. Je l'ai fait dans un restaurant étoilé. Et là, je me suis rendu compte que ma place a été vraiment là, quoi.
Ça t'a pas effrayé, justement, parce qu'on dit souvent que les restaurants étoilés, c'est un côté très militaire qui peut être assez violent, même des fois en cuisine. Donc, se retrouver en troisième dans un restaurant étoilé, ça a été quoi, justement? Tu peux nous parler un peu de cette expérience?
Et bah, il se trouve que j'ai eu de la chance. J'y suis allée un peu sans trop réfléchir, parce que j'en avais envie. À l'époque, j'étais quand même assez jeune, parce que j'avais sauté une classe, j'avais 12 ans, 13 ans à l'époque de mon stage de 3e. Et c'est vrai que, disons, je voyais le côté un peu fleur bleue de la cuisine, je regardais Top Chef, je regardais des émissions télé. Enfin voilà, je me posais pas trop ces questions d'ambiance et de conditions de travail. Et il se trouve que ça s'est très bien passé, puisque bah, j'étais toute jeune, ils se sont bien occupés de moi. Et je suis allée dans un restaurant étoilé où, en tout cas dans mon souvenir, l'ambiance était vraiment super sympa, quoi. Et j'ai pu toucher un peu à tout. C'était un stage d'observation, mais j'ai pu toucher un peu à tout. Et du coup, non, moi, ça n'a que renforcé mon envie de faire ce métier. Donc voilà. Et après ça, je suis quand même allée en lycée général, parce que bon... S'orienter aussi jeune, c'est quand même, c'est un parti pris, et on m'encourageait pas forcément à le faire. Pas que mes parents n'étaient pas d'accord, mais voilà, ils disaient que c'était quand même bien si j'allais jusqu'au bac, quoi. Et du coup, j'ai fait une seconde générale, et en seconde, je suis quand même allée aux portes ouvertes de l'école Ferrandi, et je me suis rendu compte que, en fait, on pouvait commencer avant le bac, qu'on pouvait être payé, que l'école n'était pas payante, alors qu'après le bac, c'est très cher. Et puis moi, je me faisais quand même un peu chier au lycée, donc. Bah, ça s'est fait très naturellement, en fait. Du coup, j'ai décidé de redoubler pour pouvoir commencer une formation, retourner en seconde pour faire une formation de 3 ans où j'étais en alternance. C'est pour ça que j'étais payée, du coup. Je travaillais 2 semaines par mois en restaurant et 2 semaines par mois, j'étais à l'école. Et du coup, moi, contrairement à Pauline, je lis beaucoup moins de livres de cuisine, je regarde beaucoup moins d'émissions, etc. Parce que j'ai commencé très jeune avec un rythme de travail qui était quand même très soutenu. Et du coup, je prenais pas forcément le temps. Enfin voilà, il y avait la cuisine, j'avais décidé de faire ça de manière professionnelle très tôt. Donc j'avais aussi le temps que j'avais, disons, pour moi, qui était mon temps libre, je l'ai passé plutôt à faire autre chose. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à 15 ans dans un restaurant où j'ai rencontré Ashvin, qui lui aussi était à la maison Odette, qui est passé par là et qui m'a formé, qui était mon chef de partie à l'époque. Et on s'est retrouvés l'année dernière. Lui, d'entre-temps, il est devenu chef. Et donc, il m'a prise pour que je sois sa sous-chef dans un restaurant à Paris. Voilà, on s'est retrouvés là-bas. C'était assez sympa.
Donc, tu as commencé à 15 ans. Donc, c'est très jeune hein, de commencer à travailler comme ça à 15 ans en cuisine. On parle souvent des rythmes épuisants de la restauration professionnelle. Ça t'a jamais découragé? Ton envie, elle est toujours la même qu'au départ?
Alors, je suis passée par plein de phases. Hein. Il y a eu des moments où, effectivement, je me suis posé plein de questions. J'ai été aussi très bien entourée, ce qui m'a permis de tenir le coup, parce qu'il y a des moments où, effectivement, quand t'es aussi jeune, que tes copains ils font la fête, qu'ils sèchent les cours, et etc., et puis que toi, t'as plus de vacances scolaires, parce que du coup, bah, j'étais à 5 semaines de congés payés par an. Même ne serait-ce que physiquement, c'est un rythme qui est dur à tenir quand tu commences jeune, et à tout âge, hein, y a un temps d'adaptation qui est... Voilà, faut comprendre comment ça marche. J'ai été découragée par moments, mais il se trouve que c'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie, quoi, et je ne me vois pas faire autre chose. Et je sais que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc là, la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est comment pouvoir faire ce métier tout en ayant des conditions de travail qui, pour moi, sont des conditions qui me conviennent, quoi. Ce que je n'ai pas encore forcément trouvé. Mais je continue de chercher, je multiplie les expériences. Et voilà, je vais essayer de trouver une manière viable pour moi de pouvoir... faire ce métier qui n'est pas forcément travailler dans un restaurant et faire de la coupure 5 jours sur 7.
Donc inventer ton propre rythme, inventer ton propre fonctionnement.
Ouais, voilà.
Je reviens un peu sur le titre de l'émission, c'est Cuisiner avec amour. Pour vous, ça a quoi comme sens l'idée de cuisiner avec amour ? Est-ce que c'est juste un truc bisounours ou est-ce que ça fait sens pour vous ?
Comme je disais avant, moi je suis arrivée en cuisine parce que j'aime manger et en fait je cuisine ce que j'aime manger. Du coup, ça prend tout son sens pour moi parce que tout ce que je fais, c'est des choses que... Enfin, c'est très égoïste, hein, mais c'est des choses qui me feront vraiment trop plaisir. Donc ça vient de là. Et puis après, j'ai l'impression que de l'extérieur aussi, quand je vais manger chez quelqu'un, dans un restaurant ou quoi, on sent les choses. J'ai l'impression qu'on sait quand même... lorsqu'il y a eu une intention plutôt... Une attention plutôt d'y mettre tout son cœur ou alors juste remplir une assiette parce qu'il faut envoyer quelque chose, quoi. J'ai l'impression que c'est des choses qui se sentent plutôt bien.
C'est ça un petit peu le paradoxe dans ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait, tu cuisines, ton point de départ, c'est de cuisiner quelque chose que tu aimes, que tu aimerais qu'on te cuisine finalement, mais tu le cuisines systématiquement pour les autres en fait. Quand tu cuisines dans un restaurant, c'est ça.
C'est vrai. C'est vrai qu'on cuisine pour les autres, mais... Mais du coup, quoi qu'il arrive, quand on est en cuisine, on goûte tout le temps. Enfin, tout ce qu'on fait, on goûte. On vérifie l'assaisonnement, on vérifie... Il y a l'idée de la bouchée parfaite aussi, de se faire des micro-cuillères avec tous les éléments d'un plat et de vérifier que tout fonctionne bien ensemble. Donc, moi, je mange. Hein. La vérité, c'est que je suis en cuisine, mais je mange quand même. Hein. Parfois, je ne me fais pas de repas à côté quand je suis en cuisine parce que je sais que mon estomac est bien rempli, quoi.
Est-ce que l'une d'entre vous a le souvenir d'avoir cuisiné à un moment donné avec amour, quelque chose pour quelqu'un, et que ça ait déclenché justement, que ça ait créé justement un moment de partage, un moment assez marquant pour vous ?
Je pense qu'on va toutes les deux donner des exemples de ce qu'on a vécu ici à la Maison Odette. Un des premiers soirs, on a cuisiné des aubergines vapeur, qui est un peu pour moi une recette japonaise phare que j'ai appris d'une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui cuisine beaucoup. On a fait des aubergines vapeur au soja pimenté, jaune d'œuf confit, une salade d'herbes et du sarrasin toasté. On avait un convive taku japonais qui nous a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé ces goûts-là et c'est des choses qui nous vont droit au cœur parce que c'est du souvenir, c'est son souvenir, c'est mon souvenir, c'est notre cuisine, c'est ce qu'il aime manger. Voilà, c'est des choses qui sont assez agréables à entendre.
Et toi, Mélissa, il y a un souvenir qui te vient comme ça ?
Ouais, on a fait un dîner. Alors, en fait, pendant le temps de la résidence, on a plutôt fait des menus dégustation, on va dire. On faisait plusieurs assiettes. Les clients avaient en général 5-6 assiettes à manger. Et un soir, on a fait un grand dîner à l'intérieur. On a dressé une grande table, on était une dizaine. Et on a fait un feu de cheminée dans lequel on a cuit pas mal d'éléments au feu de bois. On a fait des pains pita, des aubergines au feu, des pommes de terre, des oignons. Et avec plein de condiments qu'on a posés sur table un peu partout. Et c'est vrai que moi, c'est cette ambiance-là que je cherche quand je fais à manger pour les gens. C'est ces moments-là de partage ou de convivialité où on est tous ensemble autour d'une table. Moi, ça me rappelle des dîners de famille où on est tous autour d'une table à partager, à se donner des bols, à se demander...
quelque
chose de très, très gourmand et familial, convivial, quoi. Et ça, c'est vrai que tout le monde a apprécié. Je pense qu'en dehors d'un dîner, c'était aussi une expérience sympa, quoi, pour tout le monde. Et on avait des clients de l'extérieur qui ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, je pense, et ils ne s'attendaient pas forcément à avoir ce genre de dîner. Et tout le monde est ressorti assez content, et nous, les premières.
Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux auditeurs qui ne sont pas forcément restaurateurs ? On est plus nombreux à ne pas être chef dans des restaurants et avoir votre parcours qu'à cuisiner simplement chez nous. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil ?
Alors pour moi, il y a deux conseils qui sont quand même fondamentaux. Du coup, c'est le choix des produits. Typiquement, nous ici, quand on est arrivé dans les Cévennes, on est allé à plusieurs marchés de producteurs. Et on a favorisé les petits producteurs qui ont un produit phare. Il y en a un qui avait l'aubergine, un qui avait l'oignon, un qui avait les pommes de terre. On voyait bien à l'œil et puis au toucher quel produit nous plairait le plus. Et la sélection des produits, des choses bio, des choses élevées, j'ai envie de dire, dans des bonnes conditions, sans trop d'intrants. Et ensuite, pour moi, la deuxième, une fois qu'on cuisine avec des bons produits, c'est pas si compliqué, c'est juste une question d'assaisonnement. Faut goûter, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît pas, de quoi ça manque. Si c'est trop salé, je mets un peu de vinaigre, si c'est trop sucré, je mets un peu de vinaigre. Non, mais je veux dire, faut rehausser un petit peu à chaque fois... Sur l'assaisonnement, je sais pas, Mélissa, t'en penses quoi?
Ouais, moi j'allais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que c'est une question que m'ont posé aussi pas mal de copains. Et en général, je réponds la même chose qu'à Pauline. Et je dirais aussi que, bah, contrairement à la pâtisserie, effectivement, la cuisine, c'est de l'instinct. Et moi, je sais que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est vraiment de la sensibilité. C'est être sensible à ce que tu fais, c'est essayer de comprendre pourquoi tu fais les choses. Et la technique, j'ai envie de dire, ça vient après, en fait. La sensibilité, c'est ce qui passe en premier. Si t'es à l'écoute de ce que tu fais, que tu goûtes justement, que tu te demandes qu'est-ce que t'aimerais rajouter, si justement bah, le vinaigre ça manque un peu, voilà. C'est, puis c'est aussi au goût de chacun, parce qu'on a, personne n'a les mêmes goûts. Tu peux, dans les restaurants, pour avoir bossé dans pas mal de restaurants, les clients sont jamais tous contents, quoi. C'est normal, donc c'est vraiment de s'écouter et d'essayer de laisser parler sa créativité et sa sensibilité.
Donc je résume un peu, accepter de ne pas plaire à tout le monde et puis... Et être sensible, en fait. C'est un conseil que tu donnes, finalement, être sensible.
Bah ouais, parce que les produits qu'on travaille, c'est du vivant, que ce soit la viande, le poisson, c'est des bêtes vivantes, les légumes, bah, ça vit aussi dans la terre. Et pour moi, si on veut cuisiner, si on veut rendre hommage à ces produits et pouvoir les mettre en avant, il faut les cuisiner avec cette sensibilité-là et cette conscience-là aussi.
Et du coup, je rebondis là-dessus, la sensibilité, on peut l'enrichir avec la curiosité. En fait, aller manger chez les autres, que ce soit votre tante, votre sœur, votre tonton, votre grand-père, votre voilà, homme-femme, je veux dire, bon, ce que vous allez manger, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous mangez? Qu'est-ce qui vous interpelle? Pourquoi vous aimez ça? Les textures, les goûts, les couleurs, l'assiette, la vaisselle, je veux dire, manger passe par le visuel et par le goût. Et faut s'interroger là-dessus. Et il faut interroger les autres sur comment ils font les choses. Et ensuite, bah, ça devient inspirant. Et ensuite, ça sensibilise. Et voilà.
Et depuis en aiguille, on devient super bon cuisinier.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délices.